Chapitre 51. Nathan poussa de l'épaule la lourde porte en chêne qui finit par consentir à s'ouvrir en grinçant sur ses gonds rouillés. Dans le silence, le son du bois qui raclait contre le sol de pierre des remparts avait quelque chose de sinistre. Dès que la porte fut ouverte, le vent vint faire voler les cheveux de Nietzsche et de Callan. Dans l'air, Richard reconnut une puanteur qui n'augurait rien de bon. De grands nuages blancs zébrés de zones plus sombres dérivaient dans le ciel. Au moins, ils n'étaient pas tombés comme dans les terres noires. Se fiant à la lumière, Richard estima qu'on devait être en fin d'après-midi.
« Ne te précipite pas, fiston !»
dit Nathan en le retenant par la manche.
« Inutile que ces gens te voient !»
Richard acquiesça et s'engagea prudemment sur le chemin de ronde orientale. À cet endroit, la muraille d'enceinte se trouvait pratiquement bord à bord avec le gigantesque haut plateau qu'elle dominait. Au niveau du sol s'étendaient les immenses plaines d'Azrite. Davantage qu'un palais, c'était tout un complexe qui se dressait sur ce haut plateau. Avec sa myriade de bâtiments connectés, ses dizaines de niveaux, ses innombrables ponts et tours et ses annexes ajoutées au fil des siècles, il aurait même été plus juste de parler d'une ville. Et ce n'était pas tout. À l'intérieur du plateau, autour d'un escalier central géant, se trouvaient sans doute plus d'habitations, de boutiques et de citoyens que dans le palais. Parmi les gens qui venaient régulièrement y faire du commerce, très peu avaient besoin de monter jusqu'au fief des seigneurs râles. Des archers et des arbalétriers étaient à leur poste de combat sur les créneaux. Prêts à tirer, ils bloquaient la vue sur les plaines qu'ils surveillaient d'un œil d'aigle. Pliés en deux pour ne pas se faire repérer, Richard vint se placer derrière un merlon, afin de pouvoir voir sans être vu. Accroupis, elles aussi, et se tenant par la taille, Nietzsche et Callan le rejoignirent. Les morts de site restèrent en retrait sur le seuil de la porte.
« Prudence à partir de maintenant !»
souffla Nathan.
« On ne sait jamais qui peut être en train d'observer, ni ce qu'on risque de recevoir sur le crâne. »
Richard tendit le cou pour apercevoir les plaines d'Azrite. De là où il était, on pouvait les sonder sur une incroyable distance. Le temps étant relativement clair, on distinguait même les montagnes qui se dressaient à l'horizon. Le sourcier se pétrifia. Les plaines grouillaient de demi-humains. Pas une horde, mais un véritable océan, ou plutôt une marée. Silencieux, les bras le long du corps, il regardait le palais. Dans l'angoissante quiétude, Richard entendit les cris lointains des corbeaux qui chassaient dans les plaines. À demi-nu, la peau enduite d'une matière blanchâtre, les demi-humains avaient presque tous le crâne rasé, à l'exception souvent d'un curieux toupet. Parmi eux, certains contrôlaient plus ou moins la magie noire, et les plus doués avaient le pouvoir de ranimer les morts. La puanteur venait de ces guerriers du mal. Tandis qu'il fuyait dans une forêt, Richard se souvenait de l'avoir senti dans son dos. Se fichant de leur perte, les demi-humains ne renonçaient jamais. Pour eux, un semblable mort, c'était un concurrent de moins dans la course aux âmes. Avides d'en voler une aux vivants, ils en oubliaient même leur propre sécurité. S'ils combattaient ensemble, les Shuntuk étaient motivés par un objectif très égoïste. Sulakan leur ayant promis un véritable festin d'âme, une escroquerie car manger quelqu'un ne permettait pas de s'approprier son essence spirituelle, les Shuntuk lui obéissaient aveuglément. Richard se cacha de nouveau derrière le merlon. Jetant de temps en temps un coup d'œil en bas, il tenta en vain de repérer Anis Ark et Sulakan.
« Par les esprits du bien !»
s'exclama Callan après avoir regardé aussi.
« Je savais qu'ils étaient nombreux, mais pas à ce point !»
Richard jeta un nouveau coup d'œil, puis recula. L'enlaçant, Callan le serra contre elle.
« Bien résumé, » souffla le sourcier. « Ça fait vraiment beaucoup de demi-humains résolus à nous manger. »«
Ils sont bien plus nombreux que nous tous réunis, » dit Nathan, « les entrailles du haut plateau comprises. »
Richard fit un geste circulaire. « Et sur les autres côtés du haut plateau, il y en a autant ?»
Ils nous encerclent, mon garçon. Franchement, je suis incapable d'estimer leur nombre. Normalement, pourtant, ils ne devraient pas pouvoir entrer.
Mais une prophétie annonce le contraire. Le vieil homme grogna son assentiment.
Depuis quand sont-ils là?
Quelques jours.
Et c'est là que les murs de la crypte ont commencé à fondre, pas vrai?
Demanda Nietzsche.
Poser la question, c'est y répondre,
marmonna le prophète. Nietzsche fit la grimace. Les choses ne se présentaient pas bien.
Au moins, dit Nathan, la porte géante du haut plateau est fermée et le pont-levis est levé. Ils n'ont aucun moyen d'entrer. J'ai entendu des gens dire que le palais du peuple a déjà subi de très longs sièges et qu'il n'est jamais tombé. Pourquoi serait-ce différent aujourd'hui ?
Je ne partage pas cet optimisme, dit Richard. Un homme qui a planifié son retour du royaume des morts 3000 ans à l'avance trouvera sans doute une façon de tromper nos défenses. N'oublie pas qu'il a réussi à traverser le voile.
Tu as peut-être bien raison,
concéda Nathan.
Mais j'ignore comment il va s'y prendre.
Moi aussi, mais je sais qu'il réussira à entrer.
Nous devons dès maintenant préparer notre stratégie défensive à l'intérieur du palais. Si nous pouvons bloquer les envahisseurs sur quelques points clés du complexe, le feu de sorcier les contiendra peut-être. Au minimum, il leur infligera de lourdes pertes.
Nathan sonda à son tour les plaines d'Azrit.
Richard, dit-il, tu dois savoir quelque chose. C'est la première fois que les demi-humains sont silencieux. Depuis des jours, ils braillent des injures et des menaces, promettant de tous nous dévorer vivants. Je trouve étrange qu'ils se soient tus d'un seul coup.
Ça n'a rien d'étrange. Ils sont calmes parce qu'ils savent que je suis là sur ces remparts.
Nathan ne parut pas convaincu.
Tu es venu avec la Schlief et tu ne t'es pas montré. Comment pourrait-il savoir que tu es là ?
Soulacan le sait.
Comment ?
Ignorant la question, Richard en posa une de son cru.
Tu as entendu parler des manuscrits soléiens ?
Une curieuse façon de sauter du coq à l'âne.
Réponds.
Le prophète se prit le menton entre le pouce et l'index.
Il y a des siècles de ça, nous en avons eu un au palais. Les sœurs étaient incapables de le déchiffrer, et moi aussi à l'époque.
Sais-tu de quoi parlent ces textes ?
Nathan plissa les yeux tandis qu'il fouillait dans sa mémoire.
Je ne comprends pas ce langage, comme je te l'ai déjà dit. Mais la sœur qui m'a appris que c'était un rouleau soléien l'appelait le manuscrit du cœur de la guerre.
Comment le savait-elle puisqu'elle ne parvenait pas à le lire ?
Richard, je n'en sais rien. J'ignore même d'où venait ce texte.
Bien entendu, il a fini par disparaître sans qu'on sache comment.
Non, je crois qu'on l'a échangé contre plusieurs grimoires précieux.
Dans une situation moins dramatique, Richard aurait volontiers éclaté de rire.
Quelle bonne idée !
Pourquoi cette ironie ?
J'ai lu le manuscrit du cœur de la guerre.
Dis-moi, tu as vu des textes semblables ici, au palais du peuple ?
Surpris, Nathan en oublia de répondre.
Tu l'as trouvé et tu l'as lu. De quoi parle-t-il ?
De moi. Nathan, tu vois le toit de verre du jardin de la vie là-bas ?
Le prophète regarda dans la direction indiquée par son descendant.
Oui, et après ?
Il faut que j'y aille sans tarder. Je dois voir Regula.
Callan saisit la chemise de Richard et le tira vers elle.
La machine à présage n'est pas une priorité, dit-elle. L'urgence, c'est que Nietzsche te débarrasse de la souillure à l'abri d'un champ de protection.
Sans compter, ajouta Nietzsche, que tu ne pourras rien comprendre à Regula si tu ne vas pas d'abord dans le temple des vents récupérer la moitié manquante du livre homonyme. La moitié qui correspond au mode d'emploi, en somme.
Faux, répondit Richard. Comme le grimoire des ombres recensé, l'ouvrage intitulé Regula est un leurre. Une fausse piste servant à protéger la machine. Je n'ai pas besoin de le voir pour affirmer qu'il est plein de fausses informations.
Sans y jeter un coup d'œil, comment peux-tu en être sûr ?
Zed m'a confié que les plus puissantes magies sont souvent défendues par des leurres. C'est une façon de lancer les gens sur des voies sans issue. Le grimoire des ombres recensées n'avait pas d'autre fonction et il a abusé des esprits pourtant forts pendant des millénaires.
« Comment peux-tu affirmer que Regula est de la même eau ?»
s'insurgea Nathan.
« La moitié que nous détenons précise que l'autre partie, cachée dans le temple des vents, répondra à toutes les questions. Selon toi, c'est un mensonge, mais d'où tiens-tu cette certitude ? »
Richard attendit patiemment la fin de la tirade du prophète. « Nathan, je sais déjà comment fonctionne Regula. »
« Tu as la science infuse maintenant ?»«
Non, mais j'ai lu le manuscrit du cœur de la guerre. » Le prophète en resta muet, sans doute parce qu'il avait trop de questions à poser pour savoir par où commencer.
« En route à présent !» lança Richard. « Je dois voir la machine à présage. »
Callan tira de nouveau son mari vers elle.
« Non, d'abord le champ de protection. Je vois dans tes yeux les ravages de la souillure. Tu vas très mal, Richard. Je suis passé par là et je sais ce que ça fait.
Le mal te ronge et tu ne peux plus perdre du temps. Contre toute attente, nous sommes arrivés ici avant qu'il soit trop tard. À présent, Nietzsche va te guérir. Un point, c'est tout. Si les hordes de Sulakan finissent par entrer, nous aurons besoin d'un sourcier en état de se battre.
Tu as raison, concéda Richard. Mais la machine est sur notre chemin. Je passerai juste voir qu'elle est en sécurité, puis nous filerons jusqu'au champ de protection. Tu es d'accord ?
Callan croisa les bras et jeta un regard soupçonneux à son mari, puis elle ne put s'empêcher de sourire, impressionnée par le pouvoir de conviction du sourcier.
« Si ça peut te faire plaisir, nous procéderons comme ça. »